Romains, chapitre 7. On va lire jusqu'au verset 16. Vous allez voir que c'est un texte très différent par rapport à tout ce qu'on a vu ces derniers mois. Donc ça fait déjà 18 mois que l'on examine ensemble, que l'on lit ensemble ce grand épître de Paul aux Romains. Et il arrive à la fin, dans certaines Bibles c'est marqué salutation personnelle. En tout cas, je lis à partir du chapitre 16 et le verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de son gré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses qu'elle aurait besoin de vous. Ou elle aurait besoin de vous, pardon. Car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Salut Prisca et Aquilas, les compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Salut aussi l'église qui est dans nos maisons. Salut Epaphrodite, bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Salut Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Salut Andronicus et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité, qui jouissent une grande considération parmi les apôtres, qui ont même été en Christ avant moi. Salut Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Salut Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Salut Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Évodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Triphèle et Triphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vais juste sauter au verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosibater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui a écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'église vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Après 15 chapitres, on a examiné à fond 18 mois. On tombe sur toutes ces salutations. Moi, je trouve cela. Paul a expliqué en l'Orient large une vision du monde, une vision de la condition humaine qui nous semble à la base de notre compréhension de la vie, qui tient la route face à toutes les philosophies, toutes les idéologies de toujours, qui prend au sérieux la valeur de l'être humain créé à l'image de Dieu, qui prend en compte l'arrivée du péché dans le monde, qui montre le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus, qui parle de l'Église comme étant le peuple de Dieu, qui ensuite doit refléter Dieu par sa façon de vivre, ça on le voit depuis le chapitre 12, et voilà qu'après tout ça, on revient à 16 plus 4 versets, 20 versets, il n'y a qu'une liste de personnes. Une liste de personnes. Il y en a 27, si vous voulez compter. 27 personnes qui sont nommées, dont 10 femmes, Phébé, Prisca, Myriam, Junia, Junias, Triphène, Triphose, Persie, la mère de Rufus, Julie et la sœur de Néré. Tout ce monde-là Donc ce sont 10 femmes sur les 27. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Pourquoi Paul salue tout ce monde? Mais tout simplement parce que sinon la notion de l'Église est abstraite, c'est le peuple de Dieu, mais ce sont de vraies personnes, de véritables personnes qui forment cette Église de Rome, d'illustres inconnus, on va dire, à une époque où on célèbre, on met en valeur tout le temps les célébrités, les stars, les vedettes. Souvent sur des, quand j'ouvre internet sur ma page d'accueil qui dit le bikini de telle ou telle star enflamme la toile, enfin c'est des trucs comme ça, comme si vraiment c'était important. Et ici on a 27 noms, on connaît un petit peu sur une petite poignée de ces personnes, sinon à 5-8. Je cite un autre au verset 14. À 5-8, c'était qui? Personne ne sait. C'était un chrétien, un vrai, en chair et en os, qui vivait avec les autres chrétiens qui étaient là à Rome, qui cherchaient à vivre pour le Seigneur, qui cherchaient à témoigner certainement pour le Seigneur, qui aurait été très surpris, au fond, s'il avait su que lui, son nom serait traduit dans des centaines et des centaines de langues partout dans le monde. Il aurait été surpris de savoir que dans la ville de Lutèce, ville peut-être qu'il avait vaguement entendu parler, je ne sais pas, que 2000 ans après, voilà, on serait là à parler de ce Asyncrite. Encore plus étonné s'il avait su que, par exemple, que Nora aurait pris des chars sous terre qui n'étaient même pas tirés par des chevaux. Je pense que tu viens de le mettre. Donc voilà, cet Asyncrite qui était là, mais qui était une vraie personne. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, pour nous dans ce chapitre, de se dire, voilà, ce sont des personnes qui forment le peuple de Dieu sans que le monde nous connaisse forcément. Être un illustre inconnu, c'est très bien, dans la mesure où, et là je vais citer un petit verset dans 2 Corinthiens 4, qui dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est lui qui est important, pas nous. Mais en même temps, nous avons de cette importance parce que nous sommes les rachetés. Phlégon, Hermès, Hermas, philologue, Julie, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont été rachetées par le sang de Jésus, qui sont le fruit réel de toute cette grande vision du monde que Paul a développée entre le chapitre 1 et le chapitre 8, et qui cherche à vivre pour lui selon tout ce qu'il a et développe dans les chapitres 12 à 15. Je peux mentionner quelques-uns de ces noms. Phébé, notre sœur, diaconesse de l'église de Sancré. Alors, Sancré, en fait, c'était le port oriental de Corinthe. Et Paul était certainement à Corinthe au moment où il a écrit cette lettre. Et nous avons même l'impression, plus que l'impression, les spécialistes le pensent, que c'est elle qui a amené cette lettre à Rome. Parce qu'il dit bien, elle est diaconesse, ça veut dire reconnue dans un rôle de responsable. Moi, j'aime bien traduire diac et diaconesse par responsable, le mot le français le plus proche. Une des responsables de cette église de Sancré. Et Paul demande aux Romains de la recevoir en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Donc, elle arrive, et on a l'impression, donc, avec cette lettre. Une autre personne dont il est question, c'est, au verset 22, Tertius, qui était le secrétaire, en quelque sorte, de Paul, parce que Paul a certainement dicté, parce qu'il a dit, Tertius, je vous salue dans le Seigneur, moi qui ai écrit cette lettre. Donc, c'est certainement le troisième frère d'une fratrie, hein, c'est pour ça qu'il s'appelait Tertius. Tout comme d'ailleurs le verset suivant, il y a un quartus. Donc, il y avait beaucoup d'enfants dans la famille, on ne savait pas quel nom donner, donc on disait premier, deuxième, troisième, quatrième, et comme ça, l'affaire était réglée. Donc, Tertius, le porte-parole, ou le scribe, ou le secrétaire de Paul, salue aussi l'église de Rome. Et aussi ce couple, Prisca et Aquilas, dans les actes, on dit Priscilla et Aquilas. Priscilla, c'est le diminutif, en quelque sorte, hein, comme, on va pas dire, on va dire Clo-Clo, je ne sais pas. c'est le Priscilla, c'est le petit Prisca. Et ce couple-là, ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie, peut-être lors de l'émeute des orfèvres à Éphèse. C'est le seul événement dans l'Écriture où on peut rapprocher cette notion de qu'ils avaient exposé leur tête pour le sauver. Et aussi, on demande d'ailleurs qu'on salue l'église qui était dans nos maisons. Donc on comprend à Rome peut-être qu'il y avait plusieurs églises de maisons. D'ailleurs, c'est un couple qui a beaucoup voyagé, parce que nous lisons dans Acte 18 qu'ils étaient récemment, ils étaient originaires du Pont. Le Pont, c'était une région dans l'Asie mineure, donc la Turquie actuellement. Originaires du Pont, mais récemment arrivés d'Italie avec sa femme. Priscilla, parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Donc là, ils étaient originaires de Pont. Ils sont allés en Italie, ils sont revenus donc à Corinthe. Plus tard, ils étaient de nouveau à Éphèse, parce que 2 Timothée 4 par deux à Éphèse, mais ils sont forcément à Rome au moment où Paul écrit cette lettre. Et on peut dire la même chose, on les appelle compagnons d'œuvre, compagnons combat, de littéralement collaborateurs qui travaillent avec moi. C'était le terme au verset 3, et le terme est aussi pour Urbain, au verset 9, saluer Urbain, compagnon d'œuvre en Christ. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on voit bien la composition mixte de l'Église, parce que certains de ces noms sont plutôt juifs, certains sont plutôt grecs, et certains sont plutôt latins. Donc on voit qu'ils étaient originaires de différents pays. On parle aujourd'hui d'une société où les gens bougent tout le temps. C'est vrai, si je regarde cette Église, il y a quelques-uns qui sont à Paris depuis toujours, mais d'autres sont arrivés à Paris, ou ils sont de passage à Paris, ou etc., etc. Donc, on est dans un monde qui bouge, mais même dans l'Antiquité, il bougeait beaucoup. La Pax Romana, la paix romaine, avait fait en sorte que les routes avaient été construites, et les Romains avaient construit tellement de routes qu'en fait, il faut attendre le 16e siècle avant d'avoir autant de routes en Europe pendant l'Empire romain, tellement ils avaient de routes. Et ça faisait partie, bizarrement, je pense, du plan de Dieu. C'est dans les Galates, quand Paul dit que quand le temps était accompli d'envoyer son fils, c'était le bon moment, parce que c'est le seul moment pendant 3 siècles où il y avait une certaine paix, la Pax Romana, qui permettait aux gens de voyager. Les routes qui étaient là, les bateaux étaient là, et l'évangile a pu se répandre, comme il n'aurait pas pu le faire avant, ou peut-être à un certain moment après. C'est vraiment le bon moment pour que l'Évangile puisse se répandre. Et le fait que Paul peut écrire à Corinthe et saluer plein de gens à Rome, qui n'avaient jamais été à Rome, pourquoi ils les connaissaient? Peut-être parce qu'ils les avaient connus dans d'autres villes, ils avaient ensuite déménagé à Rome. Donc c'est comme ça, c'était une vie en mouvement comme aujourd'hui. Il y a des petits détails. Proustian aussi, le verset 5, qui dit que, et pas inepte, mon bien-aimé, qui était ancré, qui était pour Christ les prémices de l'Asie. Donc, on peut comprendre le premier converti en Asie, donc en Asie mineure, donc la Turquie actuelle. Et même au verset 7, qui parle de ses parents, on peut comprendre dans ce texte, parce que ce n'est pas la seule fois où il dit, quand il dit parents, il voulait dire plutôt compatriotes, en quelque sorte. Donc Andronicus et Junias, qui ont même été en Christ avant moi, donc qui étaient convertis avant Paul. Donc encore un tout petit détail. Donc tout cela pour dire que l'Église dont on a parlé la dernière fois, qui est composée à la fois de forts et de faibles, de juifs et de non-juifs, là on a la concrétisation quelque part avec tous ces noms. C'était vraiment des personnes très différentes. Par exemple, là au verset 23, on parle d'Éraste, qui est le trésorier de la vie. Donc, Paul écrivait de Corinthe, c'était quelqu'un, je dirais, bien placé dans la société. Les chrétiens n'étaient pas tous issus des banlieues sensibles de Corinthe, pour utiliser un terme d'aujourd'hui. Donc il y avait Éraste qui était le trésorier de la ville, qui était également dans l'église. Alors, que penser de tout cela? Je vais en parler plus la semaine prochaine, donc je ne vais pas tellement insister aujourd'hui, mais tout comme les chapitres 14 et 15 étaient un long plaidoyer pour que l'on vive ensemble dans l'Église, il y a encore une petite parenthèse que je n'ai pas lue, mais que nous verrons la semaine prochaine, qui est de nouveau une parenthèse qui parle de la difficulté de vivre ensemble au sein d'une Église. Je lis à partir du verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le mal, et pur en ce qui concerne, sage en ce qui concerne le bien, et pur en ce qui concerne le mal. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, il faut s'éloigner des personnes, il faut travailler pour qu'il n'y ait pas des divisions dans une église. C'est important parce que la présence de l'église, l'existence de l'église, c'est le témoignage numéro un apporté à l'Évangile. Vous êtes une lettre de Christ connue et lue par tous les hommes. C'est 2 Corinthiens 3. Il y a un autre verset que j'ai cité 3 fois 18. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La référence, Jean 13, verset. Très bien. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quand on voit cette liste, je ne connais pas tout le monde, est-ce qu'ils avaient tous le même caractère, la même façon de voir la vie? Certainement pas. Quand on voit d'ailleurs dans la vie combien nous sommes différents, c'est extraordinaire que le Seigneur arrive à créer une seule église. Il y a la différence d'âge. Il y a les jeunes qui savent tout. Les quadrats qui connaissent, qui ne savent rien. Puis à partir de 60 ans, on commence à avoir quelques lacunes dans son ignorance. Et puis, il y a les hommes et les femmes. Hein. C'est connu, hein. Les hommes qui ne savent faire qu'une seule chose à la fois. Les femmes savent faire beaucoup de choses. Il y a le caractère des uns des autres. On peut être exubérant ou plus timide, plus enfermé. Il y a plein de différences que j'ai mentionnées, je pense, la dernière fois, quand on faisait Romains 14. Il y a une petite histoire que je raconte de temps en temps, peut-être que vous l'avez entendue, pour voir comment les uns et les autres peuvent avoir un regard différent sur la vie. Si je l'ai déjà raconté, vous me pardonnez, mais j'aime beaucoup cette histoire, surtout la fin, parce que ça me rappelle Marie, quand mes enfants étaient plus petits. Donc c'est une fille qui va voir toutes les personnes de sa famille pour demander, parce qu'elle ne retrouve plus son nouveau pull. Alors elle va voir son petit frère et il dit « t'as vu mon pull ?» Elle dit « tu veux celui qui te fait paraître plus grosse ?» Mon petit frère. Ensuite elle va voir le papa. Il dit, tu veux dire celui qui m'a coûté 50 euros. Va voir la grand-mère, qui dit, tu veux dire celui qui est trop décolleté. Va voir la maman, qui dit, tu veux dire celui qui doit laver à la main. Donc chacun a un regard différent sur des trucs pratiques, matériels. Alors, à plus forte raison dans la vie, que c'est des miracles que le Seigneur veut nous faire vivre ensemble en tant qu'Église. Avec nos différences. Et c'est une des raisons pour laquelle, je reviens à notre texte, une des raisons pour laquelle il me semble que ce texte est là à la fin de Romains 16. Pour qu'on ne dise pas, Paul, tout ce que tu racontes là, dans les chapitres 1 à 15, c'est beau, mais c'est théorique. Mais là, non, c'est concret. Ces personnes qui vivaient déjà, c'est possible que, bon, je prends au hasard, que justement Aristobule ne voyait pas toujours les choses de la même façon que Néron. Peut-être qu'il y en avait un qui disait, ah, pour moi, la ponctualité, c'est plus important. Et l'autre dit, après le début du culte, c'est pas grave. Ça existe encore. C'est possible, mais on doit apprendre à vivre ensemble. Et je termine avec deux conclusions, une conclusion qui n'est pas dans ce texte, une conclusion qui l'est. D'abord, deux versets que nous voyons de temps en temps dans la série Passerelle. Les deux versets qui commencent de la même façon. Jean chapitre 1 et le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu est venu, il a pris un corps comme le nôtre pour qu'on puisse voir Dieu. Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu se révèle en la personne qui est son Fils. Donc personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique qui l'a fait connaître. Et puis on peut regarder dans 1 Jean 4, et le verset 12, nous avons le début du verset qui est pareil. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et quand on regarde tout le contexte, c'est que c'est l'existence d'une église de vraies personnes qui cherchent à s'exhorter, à se soutenir, à s'aider mutuellement, que nous avons ce témoignage rendu à l'existence de Dieu, parce que c'est concret. Et c'est pour cela que l'église est appelée aussi le corps de Christ, parce que le corps est visible. Comme Jésus a pris un corps, nous sommes dans un deuxième sens, le corps de Christ, de l'incarnation. Donc ça c'est une première façon de conclure ce texte. Le deuxième, c'est de regarder le verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. La grâce. Si nous sommes ensemble, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est parce que chacun de nous dépend de la grâce de Dieu. Si nous sommes quelque chose, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes ensemble, c'est la grâce de Dieu. Nous ne le méritons pas, mais nous sommes amenés à parfois nous demander pardon les uns aux autres, mais ça ne fait que renforcer notre unité, parce que nous ne prétendons pas être ce que nous ne sommes pas. Nous sommes ce que nous sommes, et si nous nous acceptons, c'est parce que Christ nous a acceptés. Vous vous rappelez cela, Romains 15, verset 4. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Pardon, c'est verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Voilà quelques pensées à partir de ces noms. Je propose que l'on prie avant de passer un dernier chant qui est que Riley a choisi, mais qui convient bien en fait, pour conclure ce texte. Seigneur, je te remercie pour ce chapitre tellement différent et en même temps tellement encourageant, parce que ce sont des frères et sœurs sauvés par le sang de Jésus. Et peut-être que nous aurons l'occasion de faire leur connaissance quand nous serons dans l'éternité, parce que ce sont des rachetés comme nous. Merci parce que nous voyons que tout cet évangile n'est pas simplement une théorie, mais quelque chose de vrai, où tu veux montrer au monde qu'il est possible que tes rachetés vivent ensemble et dépassent les petites différences secondaires pour rester unis en toi. Et je te remercie pour l'unité qui existe dans cette église. Je prie que tu la conserves. Je prie que toutes les églises de France puissent aussi connaître cette unité qui dépasse les différences qui existent réellement entre nous dans notre mode de fonctionner, dans notre mentalité, dans nos mentalités différentes. Mais Seigneur, merci parce que nous pouvons attester que toi tu es au-dessus, que nous vivons de ta grâce et que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais que nous prêchons Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à parler de lui et à montrer au monde que c'est grâce à lui que nous sommes ensemble aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay.